I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Chasseur me tuera, lapin intriga, me serrer la main, me serrer la main, serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Aurélie est la maman de deux petites filles et elle est mariée à un Irlandais. Lorsque ces deux globe-trotteurs ont décidé de faire leur premier enfant, cela a mis plus de temps que prévu et ils ont dû passer par la case insémination artificielle. Dans cet épisode, Aurélie nous raconte son parcours pour avoir son premier bébé, sa deuxième grossesse surprise, ainsi que son retour à la vie de village pour élever ses filles après avoir vécu des années à Paris. Bonne écoute!
Bonjour Aurélie, merci beaucoup de participer à ce nouvel épisode.
Merci beaucoup, bonjour.
Alors tu es la maman de deux petites filles, comment est venu le désir de maternité ?
Donc c'est toujours quelque chose que j'ai désiré. Et j'ai eu envie, quand j'ai rencontré du coup mon mari, on a passé une première année ensemble, géniale, et très rapidement, au bout de 3-4 mois, je lui ai dit « j'ai envie de porter tes enfants ».
Ah oui,
ça arrivait très vite. Et on a commencé du coup à en parler assez rapidement. On savait qu'on allait faire notre vie ensemble. Et du coup, au bout de 2 ans, on a commencé, on s'est dit, on y va, on a envie d'être une famille.
Et donc, tu me disais que ça avait été un peu difficile de tomber enceinte.
Du coup, on a commencé au printemps. Et au début, bien sûr, on s'est dit, on verra, ça peut arriver tout de suite, ça peut arriver, ça peut prendre un peu plus de temps. Je sais que ma maman, ça avait pris 6-7 mois pour sa première grossesse, bon, ce qui est plutôt normal, mais du coup, les 6 premiers mois, je ne me suis pas stressée. Et ma sœur aussi avait mis 9 mois pour la première. Donc je m'étais dit en tête, jusqu'à 9 mois, je ne fais rien, je ne me pose pas de questions, on vit ça, on en profite. Et du coup, au mois de janvier, quand les 9 mois étaient passés, j'ai commencé à me dire, bon, j'ai 33 ans, peut-être que je vais aller voir le gynéco, je vais lui en parler, me dire ce qu'il en pense. Et gynéco super sympa, qui me dit, bon, bah, vous n'avez pas 25 ans, on y va, on fait les examens, comme ça, si jamais vous avez besoin d'aide, on enclenche l'aide que vous avez besoin. Et du coup, on a fait les tests et il n'y avait rien de spécial. Moi, j'avais juste un petit taux d'hormones, je crois que c'était mon taux d'hormones de fabrication de lait ou je ne sais pas quoi, qui était un peu élevé, du coup, qui peut un peu ralentir le processus. Donc, il m'avait donné un petit peu des petits cachets pour réguler ça. Et mon mari a fait aussi des tests et... Tout était plus ou moins normal. Donc, il n'avait pas un taux hyper élevé. Mais c'est vrai que maintenant, les spécialistes nous disaient qu'avec les téléphones portables, le stress, etc., la qualité des spermes était moins bonne qualité qu'il y a plusieurs années. Donc, mais ça n'empêchait pas du tout d'avoir une grossesse rapide, etc. Donc, c'est assez long, le processus, à partir du moment où on fait un spermogramme, en fait, et qu'on va voir le spécialiste. Il faut refaire un spermogramme 3 mois plus tard. Donc, déjà, ça prend 3 mois. Donc, ça ne marchait toujours pas. On continuait. Et au mois de juillet, notre gynéco et le spécialiste a dit, si vous voulez, on vous inscrit pour faire une insémination artificielle.
Donc, comment tu l'as vécu ?
En fait, ça ne me dérangeait pas du tout d'avoir ça de programmé, parce que l'essentiel, c'était d'avoir après un enfant. Mais c'est plus de ne pas savoir ce qui va se passer après. C'est-à-dire, on se dit, là, c'est la première étape un peu de la PMA, qui n'est pas trop compliquée. Mais après, c'est vrai que les FIV, c'est un peu plus compliqué. Et puis, si les FIV ne marchent pas, qu'est-ce qui nous attend après? Donc, c'est plus ne pas savoir. Si on me dit, vous faites une assimilation et ça marche tout de suite, bon, il n'y a pas trop d'angoisse, en fait.
D'accord.
Mais il y avait surtout, pour l'instant, au début, de l'excitation, de l'espoir. Je me suis dit, l'assimilation, c'est génial, ça va marcher tout de suite. Ils vont prendre les super spermes, ils vont me stimuler à mort et ça va marcher, quoi. Donc, on était super contents et... il y a eu le mois d'août, donc le mois d'août, on ne s'est pas inséminé, tout le monde part en vacances. Mmh. Donc on a dû attendre le mois de septembre. Donc là, on était déjà à 17 mois d'attente,
d'accord,
du coup, pour de grossesse. Et en fait, c'est assez rapide, l'insémination artificielle. On doit donc effectivement se piquer pour stimuler le... la production des eggs, comme on dit en anglais, voilà. Et donc deux trois piqûres, il me semble, je me souviens plus trop. Et il faut, par contre, c'est vrai, vite se rendre à l'échographie pour qu'ils voient comment ça évolue. Si ça évolue bien, il faut se faire une prise de sang, enfin, faut être assez disponible quand même. Moi, j'ai la chance d'être à mon compte, donc je pouvais faire un peu comme je voulais. Et après, on a le coup de téléphone de la maternité qui vous dit, voilà, vous êtes prête, il faut que votre mari vienne pour faire son chimlic, pour donner la potion magique. Et vous venez après, quelques heures après, en fin de matinée, pour faire l'insémination.
Ah oui.
Donc septembre, ça y est, on était prêts, on a fait la première insémination. On doit attendre 15 jours pour voir si ça fonctionne. Donc, on n'a pas le droit de faire de test de grossesse. Ça doit être que la prise de sang.
Et comment ça se passe, l'insémination?
Ah oui, alors l'insémination, du coup, on arrive. Bon, ben, on fait un peu la file d'attente. Hein, c'est un peu bizarre.
Mmh.
Et puis là, le docteur vient et on est dans une petite pièce. Alors, le mari est présent ou pas. Mais bon, ben, nous, on s'est dit, on fait notre bébé, donc tu viens. On s'assoit dans une chaise gynécologique. Et puis, il y a le petit écran et... voilà, on s'est tenu la main avec mon mari et puis il arrive avec la pipette. C'est une petite pipette en fait. Et il insère les spermatozoïdes à l'aide d'une pipette.
D'accord.
Et on voit sur l'écran les spermes en fait se diffuser. Et on voit tout ce qui se passe et puis on se dit ça y est, il n'y a plus que la magie à opérer. Et après ils nous disent de rester un petit peu allongés, 10-15 minutes et... il dit, vous n'êtes pas obligé, mais voilà, si vous voulez vous reposer un peu, discuter. Mmh. Et puis après, il me dit, surtout, vivez votre journée comme si ne rien n'était, n'y pensez pas. Vous pouvez courir pour prendre le bus, vous pouvez éternuer, vous pouvez tousser, vous pouvez sauter. Donc voilà, il était super sympa, j'étais persuadée que ça allait marcher.
Ça se passait en clinique ?
Oui, j'étais au Diaconès. Ils ont été géniaux, au Diaconès. Donc j'étais persuadée que ça allait marcher, j'ai eu tous les symptômes, les seins qui me faisaient mal, les odeurs.
Au bout de combien de temps ?
Au bout de, je sais pas, ouais, une semaine, je disais à ma sœur, je fais ça y est, je pense que je suis enceinte, quoi, ça marche. Et on voulait partir s'installer à Nice et on devait partir en week-end. Et on avait pris les résultats de la prise de sang avec nous dans l'avion. Et on voulait en fait ouvrir l'enveloppe à Nice. L'avion avait du retard, donc ça a été retardé de 3-4 heures. Donc on transpirait dans l'avion, on voulait ouvrir cette enveloppe. On s'est dit, on ouvrira quand on sera à Nice dans notre chambre d'hôtel. Et là, on a ouvert et c'était négatif. Donc là, tout s'écroule. Moi, j'ai pleuré. C'était vraiment une grosse déception parce que un fort désir d'enfant. Et puis surtout de se dire, mince, si ça marche pas, comment on va faire? Quelle est la solution? Ça marche pas naturellement, on n'arrête pas. Voilà, on essaye de pas y penser, ou alors on y pense, on fait ça plein de fois, ou alors on fait, comme les spécialistes nous disent, de le faire que deux fois par semaine et se détendre. Bon, ça marchait pas. Le point positif, c'est qu'on se dit, bon, le jeu recommence tout de suite 15 jours après, en fait. Donc on a ses règles, et puis après on recommence, on se refait piquer, ça, on remet le processus en fait en marche rapidement. Donc il y a l'espoir qui revient tout de suite. Donc on a refait les piqûres, etc. Là, je me souviens que j'avais même... parce qu'il faut faire normalement les piqûres un peu à la même heure, faut respecter. Là, j'avais pas fait les piqûres à la même heure, mon mari était pas là, à un moment donné, c'est ma sœur qui l'avait fait, on savait pas si c'était bien fait. Je m'étais cachée dans la salle de bain parce que j'avais des copines qui étaient là pour dîner et je voulais pas forcément en parler à tout le monde de ce qu'on était en train de vivre pour pas qu'il y ait trop de questions, de pression et que tout le monde attende alors, ça marche. Et donc là, j'ai fait les choses un peu plus brouillon. Et pareil, insémination qui s'est passée de la même façon. Et là, il n'avait pas mis l'écran cette fois-ci. J'ai dit, ah mince, on n'a pas fait l'écran. Et puis, c'était un peu plus brouillon, c'était un peu moins...
C'était au même endroit ?
Même endroit, oui. Et puis du coup, je ne suis pas restée assise, je suis tout de suite partie. Et puis après, je suis partie, j'ai déjeuné avec une copine. Et le soir, on a eu un dîner. Et puis voilà, j'avais pas de symptômes. Et puis là, ça a marché. Donc, deuxième insémination, on a eu de la chance, ça a marché.
Voilà. Tu l'as su combien de temps ?
2 semaines après, du coup, pareil, la prise de sang et on l'a su. Et c'était le bonheur. Mais pareil, après, on se dit, bon, il faut faire attention. Faut que ça tienne. Et puis on partait à Oman en fait en vacances 2-3 jours après. Et voilà. Et du coup on s'est dit bon, on va pas faire de 4x4 dans le désert. On va pas faire quand même. C'était précieux. C'était attendu. Ça faisait 18 mois. Donc c'était le temps de deux grossesses. Donc on était sur un petit nuage.
Et alors comment s'est passée cette première grossesse?
Super bien, à part que j'étais très malade. J'ai eu de grosses nausées, pas trop de vomissements, enfin 2-3 fois, mais vraiment de très fortes nausées avec l'impossibilité de manger, tout me dégoûtait. C'était vraiment. Ça a commencé vraiment à 5 semaines, comme ils disent, à 5-6 semaines, à tel point qu'à un moment donné, j'ai appelé le médecin. Et une énorme fatigue, en fait, j'avais même du mal à marcher. Donc j'ai appelé ma mère qui est venue s'occuper de moi, je pouvais même pas descendre faire les courses, hein, c'était bizarre, j'avais vraiment zéro force, à tel point que je me suis dit je vais avoir le même problème que Kate Middleton. Je vais avoir, je sais plus comment ça s'appelle, quand vraiment on est très très malade, on a des grosses nausées, et elle avait été hospitalisée, etc. J'ai appelé SOS Médecin pour qu'il vienne, en lui disant je pense que j'ai le même truc que Kate Middleton. Du coup, il est arrivé, je me suis assise dans le couloir tellement j'avais pas de force, et il me dit oh là là, autant que ça. Et là, je me suis mise en larmes, et il a plus fait une séance de psy qu'une séance de docteur, il m'a dit c'est normal. Je lui disais mais mon corps est nul, j'y arrive pas, enfin. Il n'a pas de force, je vais pas réussir à faire grandir un bébé, je suis nulle. Et puis il me dit, mais c'est tout à fait normal ce qui vous arrive. Reposez-vous, chaque personne est différente. Si vous n'arrivez pas à manger, prenez un petit bout de chocolat. C'est pas grave si vous ne mangez pas, parce que moi j'étais hyper première de la classe. Je voulais bien manger, manger des bonnes salades, des bons aliments, etc. Mais je pouvais rien manger, je mangeais des crêpes à la béchamel et au petit jambon, au petit déjeuner, des trucs surgelés, j'avais envie de trucs pas bons, quoi. Enfin, des personnes, enfin, c'est très bon, mais c'est pas bon pour la santé en soi, la nourriture surgelée, etc. Le matin, je mangeais des pizzas. Quand ma mère est venue, je lui ai demandé qu'elle me fasse des escalopes à la crème et aux champignons le matin, quoi.
Tu voulais du gras, quoi.
Ouais, je voulais du gras. Mon corps demandait du gras et c'était vraiment le challenge, c'était de se trouver, dès que je me réveillais, ce qui allait me donner envie de manger, parce que si je ne mangeais pas, j'étais malade, quoi. Donc ça, c'était dur, et ça a duré 4 semaines, 5 semaines.
D'accord.
Et après, génial. Super, rien à dire. C'était un grand bonheur. J'ai eu une fois un tout petit saignement, mais c'était... j'ai appelé les diaconesses, qui sont super, qui sont 24 heures sur 24, à une autre écoute, qui m'ont dit c'est rien, voilà. On a quand même annulé, on avait un week-end à Copenhague qu'on a annulé, parce que je me suis dit, je ne veux pas prendre de risque, rien du tout. J'ai un tout petit saignement, donc je me suis un peu reposée. Ils m'ont dit c'est peut-être un peu la fatigue, voilà. Mais ça s'est super bien passé. Et au bout de la cinquième écho, on commence à acheter les affaires, on se projette. Ouais.
T'avais un suivi particulier du fait d'avoir été inséminée ou pas du tout ?
Non, pas du tout.
D'accord.
Non, pas du tout. Non, après on est vraiment... non, pas du tout.
Et donc tu accouches de ta première petite fille,
oui,
qui s'appelle Georgia Blue.
Voilà, Georgia Blue.
Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman ?
Ah oui, moi ça a été naturel, ça a été une évidence. Et alors par contre, j'ai un peu pas été déçue de la première rencontre, mais tout le monde me disait tellement c'est génial, tu vas voir son enfant la première fois, c'est tellement d'émotions, etc., que je m'attendais à un bouleversement émotionnel et que mon mari a pleuré. Et moi, je le regarde, je me dis, mince, je pleure pas. Et du coup, le fait qu'il pleure, lui, c'est ça qui m'a fait pleurer.
Mm.
Mais par contre, pour ma deuxième fille, du coup, quand je m'attendais à moins quelque chose de magique, là, la rencontre a été plus magique, finalement, parce que j'avais moins d'expectations, comme on dit en anglais. C'est horrible. Puis, Jean-Claude Van Damme, je parle moitié anglais, moitié français, avec mon mari irlandais. Mais voilà, donc...
T'avais moins d'attente pour la
J'ai moins d'attente et j'ai allaité tout de suite. J'ai eu la chance, ça s'est bien passé. J'ai allaité 15 mois. Oui, ça a été un peu l'évidence. Ça s'est très bien passé.
C'était un vrai désir d'allaiter longtemps.
Oui. Oui, en fait, c'est même pas que c'était un désir. J'avais l'impression que j'avais pas d'autre solution. Pour moi, c'est tellement quelque chose de naturel. C'est tellement ce que la nature propose. J'ai l'impression qu'en fait, un biberon, pour moi, ça me semble bizarre de voir un enfant avec un biberon. Donc, j'ai même pas. C'est comme s'il n'avait pas d'autre solution, en fait. Donc, je me suis même pas posé la question. Ouais. Et j'ai eu la chance que. Bon, j'ai eu un petit peu mal les 15 premiers jours. Je me mettais la crème, voilà, mais ça s'est très bien passé.
Et donc, peu de temps après, tu tombes enceinte, naturellement.
Naturellement. Alors, du coup, comme j'ai allaité Georgia Blue pendant 15 mois, j'ai arrêté, donc c'était le mois de novembre. Et j'ai eu mon retour de couche, moi, à la fin de mon allaitement. Je sais qu'il y a des femmes qui l'ont pendant l'allaitement, quand on allait un peu moins les derniers mois, juste le matin ou juste le soir. Donc moi, j'ai eu mes règles en décembre, en janvier. Et puis on s'est dit, bon, comme ça n'a pas marché la première fois, ça serait un peu ridicule de se protéger et de se dire qu'après, on a encore un petit... pas problème, et que voilà, ça, on attend encore 2 ans. Et c'est vrai que comme elle avait déjà 1 an et demi, on s'était dit on aimerait bien commencer à essayer quand elle a 2 ans.
D'accord.
Donc parce que si ça prend un an ou deux, voilà, on trouvait ça bien. Et en fait on est parti en voyage. On a pareil, mon mari a encore démissionné, l'installement à Nice nous a pas convenu, et on est parti. Et j'ai pas eu mes règles la troisième fois. Et j'étais enceinte. Donc, alors que c'est pas comme si on faisait l'amour tout le temps, comme pour Georgia Blue quand on essayait. Voilà, on avait déjà un enfant en bas âge, on était fatiguée, on voyageait avec elle, donc elle était souvent avec nous. En une fois, limite, j'ai envie de dire, ça a marché. Quoi.
Et alors, comment t'as vécu cette grossesse surprise ?
J'étais super contente. Mon mari a dit « Oh là là, comment on va faire ?» Première, je lui ai dit « Oh, comment ça comment on va faire Regarde !» Il dit « Non, c'est pas ça que je veux dire. » Mais on habitait chez mes beaux-parents parce qu'on voulait, on voulait déménager. On savait pas trop où habiter. On voulait voyager, on voulait en profiter. Et j'étais enceinte, on n'avait pas de maison. On avait toutes nos affaires dans un box. Et c'est vrai qu'il m'a dit « Comment on va faire ?» Mais oui, bien sûr, très content. Et on n'a rien dit. Et on est parti en voyage encore. Et j'ai encore été très malade au bout de 5 semaines, la même chose pendant 5 semaines. Ça a duré pareil, 5 semaines.
Et donc, à ce moment-là, vous étiez en Irlande ?
Alors, on était en Irlande.
Donc,
et
t'étais suivie là-bas ?
Non, alors du coup, j'ai pas du tout été suivie. Contrairement à Georgia Blue, pareil, j'étais première de la classe, fallait faire tous les tests au bon moment, etc. Là, pendant un mois et demi, c'est presque rien passé et... On devait revenir en France, en fait, pour les 90 ans de mon grand-père. Et c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai fait, la prise de sang et que j'ai fait la première écho pour voir si c'était un œuf fécond ou que tout se passait bien, quoi. Donc, plus tard, ouais. Et après, j'ai été suivie, du coup, j'ai fait des allers-retours en France.
D'accord.
Ouais. Dès que je devais faire l'écho du 3 mois, je suis revenue en France aussi. Du coup, et après on est resté en France.
Donc là, t'étais beaucoup plus sereine pour cette deuxième grossesse. Tu voyageais.
J'ai voyagé, et puis j'avais pas de maison, donc je me suis pas du tout inscrite à la maternité à 3 mois comme il fallait faire. Je savais pas où je devais m'inscrire à la maternité puisqu'on était en plein changement de vie. Donc j'étais plus étendue, oui, un peu par obligation, mais oui, j'étais quand même plus étendue.
Et alors, tu as gardé chacune de tes filles jusqu'à leurs 2 ans. Enfin, en tout cas, la première. Oui. La deuxième, elle est avec nous, là.
Oui.
Sans mode de garde. C'était un choix.
Oui. Alors, Georgia Blue, du coup, c'était un peu aussi par rapport... Oui, c'était un choix. Moi, je voulais pas les laisser la première année, c'est sûr. Après, elle est restée plus longtemps avec nous parce qu'on était, du coup, en changement de vie et qu'on était sur la route. Et donc, du coup, elle était avec nous. Mais la première année, Georgia, elle est née au mois de juillet. Après, mon mari avait démissionné en juin parce qu'on voulait du coup s'installer à Nice et on voulait voyager du coup avant de s'installer à Nice en janvier. Donc pendant 6 mois, on est parti à Hawaï, en Californie, l'Irlande, forcément. Enfin, on a pas mal voyagé avec la petite Miss. Et après, donc, on est arrivé à Nice. Mon mari a trouvé un travail tout de suite. Et en mois de mars, du coup, il a travaillé. Et je me suis retrouvée seule avec Georgia Blue pour ces 8 mois. D'accord. Donc, c'était un peu stressant pour moi parce que je ne connaissais pas ça, en fait, d'être seule. Mon mari est beaucoup plus relax sur tout ce qui est santé. Et moi, tout ce qui est santé, c'est vrai que devenir maman, c'est aussi devenir infirmière. Et ça, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas. En fait, je n'y avais pas pensé. Donc, de me retrouver seule avec elle, j'étais un petit peu stressée. Et puis, en fait, j'avais plus de clients. Et en janvier, février, j'ai été contactée. Et j'ai accepté en me disant, je vais essayer de travailler à la maison quand même en ayant Georgia. Et à 9 mois, voilà, elle a commencé quatre pattes. Elle commençait à être très vive. Je sentais qu'elle voulait un petit peu voir ce qui se passait ailleurs. Donc, j'allais dans des ludothèques pour voir d'autres enfants, rencontrer d'autres mamans. Et j'ai décidé de prendre une petite babysitter aussi qui venait à la maison. Et comme ça, moi, j'étais là, je pouvais l'allaiter, je pouvais lui donner à manger, mais j'avais quand même quelqu'un pour les temps de jeu. Donc, je pouvais quand même travailler 3-4 heures par jour avec la babysitter qui était à la maison. Donc, oui, elle était avec moi, mais j'ai quand même un petit peu délégué à partir de 9 mois. Et du coup, à 14 mois, on avait trouvé une MAM, donc c'est une maison d'assistante maternelle. Et c'est tout ce qu'on avait trouvé de dispo. Il n'y a pas de place en crèche à Nice. Et j'ai trouvé ça bien parce que... voilà, c'était comme une petite micro-crèche. C'était 3 assistantes maternelles qui se regroupaient dans un lieu de vie avec des jeux, etc. Et c'était un garçon qui a gardé Georgia Blue parce que c'est tout ce qu'il y avait de dispo. Et puis on s'est dit, pourquoi pas, c'est vrai. Pourquoi ça doit toujours être des femmes, etc. Ça a été un peu difficile. Elle n'était pas hyper contente que je la laisse à 14 mois. Je ne sais pas si c'est parce que c'était le garçon, parce qu'elle n'était pas prête ou parce que c'était la première fois. Mais elle a pas mal pleuré la première semaine. Et après, on l'a très vite reprise avec nous parce qu'on a décidé de déménager au mois de décembre. Donc, elle est restée 2-3 mois là-dedans. Et entre les 2-3 mois, on était partis 15 jours en Chine. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de temps. Et à partir de janvier, du coup, c'est là où on était un peu en vadrouille. Et on est arrivé du coup, dans le sud de la France au mois de mai-juin. Mon mari a commencé à travailler en juin. Et en juillet, j'ai eu de la chance d'avoir une place en crèche. Donc, elle avait 2 ans. Et là, elle était plus que prête. C'est-à-dire que j'ai vraiment senti qu'elle était prête à voir le monde et à 16, 18 mois. 18 mois, je trouve qu'elle était vraiment prête. Donc, Billy May, pareil, j'ai décidé de la garder avec moi la première année. Pas que à cause de l'allaitement, parce que j'aurais tiré mon lait, même si je trouve que l'allaitement est contraignant quand on doit tirer son lait, parce que sinon, je trouve que l'allaitement est très, très pratique. Moi, j'y connais rien en bouteille, en quantité, etc. Mais du coup, je la garde avec moi. J'ai décidé de sous-traiter les quelques clients que j'avais, donc j'ai pas grand-chose à gérer. Donc je suis beaucoup moins stressée parce que déjà elle est facile, que bah, c'est la deuxième. Et puis on a vraiment une vie différente, on est posé du coup, il n'y a pas de trop de vadrouille et voilà, c'est un enfant calme. Et du coup, alors pourquoi est-ce que je veux les garder ? C'est parce que, donc, bien sûr, première grossesse, j'ai beaucoup lu. Et j'avais lu que pour renforcer en fait, leur confiance en eux, il fallait répondre à tous les besoins, demandes du bébé la première année. Que contrairement aux idées reçues, ils ne font pas de caprices. Et que s'ils pleurent, c'est parce qu'ils ont besoin d'être rassurés ou voilà, d'être cajolés ou ou ils ont faim. Ou, voilà, c'est soit physiologique, soit... Et en fait, le fait qu'ils soient très dépendants de nous la première année, c'est voilà, cette théorie qui dit que la dépendance est bénéfique parce que c'est ce qui va leur permettre d'avoir toute la confiance en eux pour se dire « voilà, je suis rassurée, maman est là, on me rassure et maintenant j'ai très confiance en moi et je suis très indépendante ».
Et alors, ton mari est irlandais, comment vous envisagez de transmettre cette double culture à vos filles ?
Bon, déjà, on va souvent en Irlande. On a la chance d'avoir des beaux-parents. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir des beaux-parents qui sont très investis, qui viennent nous voir tous les 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Donc, puis qui font FaceTime tout le temps. Voilà, donc les livres, les visites des grands-parents.
Ils parlent français, les grands-parents ?
Ils parlent pas français, non. Ils parlent que anglais. Mon mari parle que anglais avec nos filles. Et c'est rigolo parce que pour le moment, Georgia Blue répond qu'en français. Des fois, elle mélange un petit peu des mots, mais pour l'instant, c'est vraiment le français qui prédomine. Mais la communication se passe correctement. Et voilà, donc les voyages. les livres, j'ai acheté toute la mythologie irlandaise pour vraiment elle s'imprègne de la culture irlandaise.
Et donc vous avez changé complètement de vie en quittant Paris. Tu étais restée une dizaine d'années à Paris pour vous installer, donc, comme tu le disais, en Provence. Pourquoi vous avez fait ce choix ?
Alors ça venait plus de moi. Moi, mon mari forcément, il adore le changement aussi. Il a fait 2 fois le tour du monde. Il a fait 2 breaks pendant ses études d'architecture. Après, il était à Londres. Ça faisait 4 ans, 5 ans qu'il était à Londres quand on s'est rencontrés. Donc lui, il était content de venir s'installer à Paris quand il m'a rencontrée. Et c'est vrai que comme il était en colocation à Londres, ça tombait plus sous le sens de venir chez moi qui était déjà installée. De plus, il voulait vraiment apprendre le français. Ça lui tenait à cœur. Donc voilà, moi, je serais partie à Londres tout de suite. Hein, mais voilà, c'était plus lui qui voulait. Donc on a commencé par Paris. Et c'est vraiment l'année où moi, j'ai commencé à me sentir claustrophobe à Paris. Donc, je venais d'avoir 30 ans, ça faisait 13 ans que j'étais à Paris, ou 10 ans que j'étais à Paris. Et j'ai commencé vraiment à ressentir des effets sur ma santé. Quoi. J'avais des nausées des nausées d'angoisse. Le vendredi soir, si on n'était pas dans un train ou dans la voiture pour partir, c'était le drame. Donc tous les week-ends, on partait, c'était épuisant. Donc voilà, du coup, on s'est dit qu'on allait commencer par s'installer à Vincennes. On avait en plus ce désir d'enfant, donc on s'est dit on va faire le premier enfant à Paris. C'est peut-être bien d'être enceinte avec les copines, je me disais. C'est peut-être bien d'être enceinte avec les copines, d'avoir du monde, etc. Finalement, je n'ai pas eu forcément besoin de ce soutien-là. Mais du coup, on a commencé par Vincennes. On est resté 2 ans à Vincennes, super appartement en face du bois. Mais j'avais toujours ce problème de les copines qui me disent « Bon, on va dîner. » Et du coup, pour dîner, il fallait aller à Paris. Pareil, les clients « Bon, rendez-vous à Paris. » Donc, j'avais toujours quand même ce problème de Paris. Quoi. Je traversais le périphérique, ça allait plus. Quoi. Donc, mon mari, ça faisait 3 ans qu'il avait bossé dans sa boîte. Et puis, il était sous pression. Et... voilà, on s'est dit, on part, quoi. On se mariait aussi la même année, en fait, j'étais enceinte. Parce qu'il m'a demandé en mariage au moment où on essayait. Donc voilà, pour préparer la naissance, préparer le mariage, envie de changement, il a démissionné. Et moi, j'avais en tête Nice. Nice, pourquoi ? Parce que je suis née à Nice, non pas que je me sente niçoise du tout. Mais je trouvais ça bien parce que c'était proche de l'Italie. Et moi qui adore voyager, je me disais, tu te rends compte, on peut aller dîner en Italie et rentrer à la maison le soir. Il y a un aéroport international dans la ville qui est très accessible. Donc, je me disais, pour tes parents, il y a des vols directs de Dublin. Et puis, voilà, la mer. Et on s'était dit, on arrive à Nice. Et il y avait en plus une opportunité professionnelle pour mon mari. Donc, il y avait pas mal de choses qui faisaient qu'on s'est dit, on va à Nice. En sachant qu'on voulait quand même vivre dans un village après. Que lui et moi, on a grandi dans un village. Et c'est la vie qu'on a envie d'offrir pour nos filles. On a envie d'avoir une vie de village. Avec les fêtes au village, avec la boulangerie. Voilà, mais... On voudrait ne pas être trop éloigné quand même de la ville. Et Nice, en fait, on est arrivé en plein centre-ville. C'était très bruyant, très pollué. Donc, au bout de 9 mois, on s'est dit, on repart. Et là, on s'est dit, on n'a qu'à vivre un peu une petite aventure. Comme toi, tu es irlandais, ça tombe pas de sens qu'on habite en France. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas faire une petite aventure à l'étranger ? Mais restons quand même en Europe pour la famille, pour si. Donc, on a sélectionné 5-6 pays qui nous faisaient envie. On faisait une petite recherche sur comment ça se passait les grossesses, comment se passait les accouchements, comment les écoles, est-ce qu'il y avait des écoles françaises, etc. On avait sélectionné le Portugal, la Hollande, la Suède, Danemark, la Belgique aussi, parce qu'on avait des amis en Belgique, qu'on peut avoir des grandes maisons en Belgique pour pas cher. Voilà, on s'est dit, on va aller passer un mois là, pour voir si ça nous plaît. Donc on est parti au mois de décembre, on a passé les fêtes, on s'est fait un beau voyage, on est allé aux Seychelles pendant 3 semaines, là où je suis tombée enceinte en fait, pendant les Seychelles, et on a prévu du coup de partir après au Danemark, en Suède. Bon, j'étais très malade du coup quand j'étais en Suède parce que j'étais enceinte, et il se trouve que mon mari a envoyé 50 CV partout, et alors que quand il a cherché à Paris, ça marchait tout de suite, et quand on allait à Nice, ça marchait tout de suite, là on lui disait renvoyez dans 6 mois, nos équipes sont complètes. Renvoyé dans un an, on est au complet. Donc ça marchait pas. Et bizarrement, alors que j'avais ce désir d'expatriation très fort, et qu'en plus après je suis tombée enceinte, on s'est dit c'est peut-être quand même mieux de rester en France encore. Et puis j'avais la France qui me manquait finalement. Après avoir été en Irlande, après avoir été un peu partout en Europe, ça me manquait la France et j'avais besoin de soleil. Ça, je m'en suis rendu compte après avoir passé 4 mois en Irlande. je me suis dit, en fait, le soleil, c'est important pour moi. Donc, on s'est dit, bon, le soleil, il a trouvé un boulot, du coup, dans le sud de la France. Ça a marché tout de suite. Donc, on s'est dit, c'est peut-être... Et puis, on avait besoin de se poser, quoi. J'étais à 5 mois de grossesse. Il fallait que je m'inscrive dans une maternité. Et on s'est dit, voilà, Banco, c'est un super cabinet d'architectes à Bandol, du coup, dans le Var. Donc, on est très bien. On est dans un petit village. On a une maison avec jardin. Pas du tout la maison de nos rêves parce que c'est provisoire. Mon mari était architecte, il veut nous dessiner notre maison dans les prochaines années. Donc pas cher, jardin, 3 chambres, à côté de la mer, à côté de la montagne. Le seul point noir, c'est qu'on est loin de la ville. Du coup, on est près de Toulon, mais Toulon, c'est pas forcément une ville qui nous plaît. Donc on est quand même à 50 minutes de Aix, 50 minutes de Marseille, 1 heure de l'aéroport. J'ai jamais été aussi loin d'un aéroport de ma vie, moi qui voyage tout le temps. Donc on aimerait, dans les prochaines années, se rapprocher d'Aix ou d'Avignon et construire notre maison de famille. Voilà, c'est notre prochain grand projet.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
J'ai pas l'impression d'avoir changé. Non, je suis très heureuse. Vraiment, je me sens épanouie, comblée. J'ai la chance d'avoir ce que je voulais. Je voulais 2 filles. Je me sens très heureuse d'avoir ma famille.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman provençale ?
Alors, une maman provençale, pour moi, je dirais, c'est pouvoir prendre son sac, aller à la plage après la crèche. C'est pouvoir avoir du soleil et de la luminosité qui éveille quand même les sens et qui donne de la bonne humeur. C'est, voilà... J'avais envie d'offrir ça à mes filles.
Quel est ton endroit kid-friendly préféré ?
Alors, clairement la plage, parce qu'on peut se poser et je peux lire un magazine. Georgia s'éclate. On essaye, si possible, de se mettre à côté d'enfants. Donc, à chaque fois, on repère, on dit où est-ce qu'il y a un enfant. Et elle s'éclate, elle joue avec le sable, l'eau. Et c'est l'endroit le plus kid-friendly possible que je connaisse.
Et quels sont tes projets pour toi et ceux prévus en famille ?
Alors pour moi, bah, ça va être de reprendre mon activité professionnelle dans les prochains mois. Voilà, je suis très contente, j'aime mon métier qui est lié au voyage, c'est ma passion. Donc je suis excitée de voir quel client que je vais rentrer dans mon portefeuille. Est-ce que ça va être en Inde, est-ce que ça va être en Australie donc voilà, ça me plaît. Et puis aussi mon blog, j'ai envie de bien pousser mon blog. Donc Home My Way, qui mélange la déco, les voyages, et puis du coup maintenant les enfants, parce que voilà, j'ai rajouté l'onglet enfant comme tout le monde quand j'ai eu un enfant, donc j'ai rajouté cet onglet. Et je pense que la déco va être très accentuée dans les prochaines années, parce que notre grand projet familial, c'est de trouver notre maison de famille. Donc on aimerait vraiment maintenant, on en a marre de la location, mon mari étant architecte en plus, il veut soit trouver un terrain pour construire, soit une vieille bâtisse provençale et voilà, refaire quelque chose de moderne. Donc ça, c'est les 2-3 prochaines années. Une fois qu'on aura notre maison familiale, on est quand même des nomades avec mon mari. Et on s'est dit, c'est pas parce qu'on a notre maison qu'on veut après s'empêcher de voyager. Pourquoi pas essayer de voir s'il y a une opportunité professionnelle à Sydney ou n'importe où. Et on se dit, voilà, si on part 1 ou 2 ans, c'est chouette. Ou alors de faire un voyage en van... en camping-car avec les filles quelques mois. Mais voilà, pour le moment, moi, j'ai reboosté ma vie professionnelle. Mon mari va s'occuper de notre maison et c'est déjà chouette.
Voilà. Merci beaucoup, Aurélie.
Merci beaucoup.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Aurélie, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 33 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.